Eh bien, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode encore hein, de Monnaie Libre. Mais je reçois encore un nouveau contributeur des Monnaies Libres, un contributeur d'Unitaire. Il travaille sur un logiciel qui avance à une allure de fou. Il s'agit du logiciel Cesium. Eh bien, il s'agit de Kimamila. Salut Kimamila, comment ça va?
Ça va bien, merci de ton invitation.
Alors, donc tu es déjà passé dans l'émission, donc les auditeurs te connaissent un peu. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez vous reporter à l'émission où tu étais présent. Donc alors, eh bien, on va parler dans cette émission un petit peu, ben, ton avis aussi, comme on a pu le voir dernièrement avec d'autres contributeurs sur ton vécu de ces RML8, sachant que toi, tu étais l'organisateur hein, en chef hein, des RML7 à Laval, qui était une très très belle édition aussi. On parlera bien sûr du lancement de G-Test, cette monnaie de test qui met l'accent, comme on l'a vu avec Inso et avec Cédric, qui met l'accent sur la toile de confiance. Enfin, tu nous donneras ton sentiment sur ses paramètres aussi, tout ça va être très intéressant. Et puis bien sûr, on parlera de Cesium. Alors Cesium, c'est vraiment un client spécial puisqu'il est dans le navigateur, donc il a des choix de développement qui sont différents de ceux de Sakia. Il a une interface plus habituelle pour celui qui a l'habitude d'utiliser un navigateur, et il est passé lui aussi à une version supérieure en 0.90. On verra ça. Et puis, toujours dans le menu de cette émission, on parlera avec toi ben, de l'activité de l'association ben, Le Sou qui veut développer donc la monnaie libre aussi donc en Mayenne. Et puis de vos activités, on parlera aussi des conférences que vous faites, ou des juges Economicus, Install Party, où tu nous diras comment vous avez orienté votre événement. Et puis on finira par un petit mot quand même, bien sûr, sur les prochaines rencontres des monnaies libres. Et oui, les RML9, et oui, on est déjà dans la ligne droite hein, pour les RML9 au Havre, prévu donc vers le mois de juin. Les dates seront très bientôt disponibles. Alors, Benoît, puisque c'est aussi ton prénom, Kimamila, RML8, comment ça s'est passé?
Ben écoute, très bien. J'étais surpris de l'augmentation de la fréquentation en termes d'informaticiens présents, donc notamment pour les 2 premiers jours. J'ai été vraiment agréablement surpris du premier jour. Cédric, là, il s'est vraiment déchiré pour faire une prise en main d'un nœud d'Uniteur de manière très simple, puisqu'il a intitulé donc sa présentation spécialisée vos nœuds. Voilà.
Ouais.
Donc on a vu comment tout simplement requêter les données, pouvoir attraper les documents et tout de suite en quelques donc avec Héloïse là on a commencé à sortir des informations pertinentes sur les membres qui allaient bientôt expirer, enfin dont les comptes allaient bientôt expirer, etc. Donc c'est vraiment une prise en main assez rapide, quoi.
D'accord, ouais, donc c'était, oui, je crois que c'était un vrai succès. Avec même il avait fait aussi, on peut en parler, une présentation aussi de la justification d'une monnaie libre pour dire, ben voilà, il a fait une explication un peu écologique, hein. Je sais pas si tu te rappelles de ça.
Ouais, bon, moi j'avais pas trop accroché à sa présentation, mais bon, c'est vrai que c'était particulier pour moi ces rencontres parce que on était en pleine réflexion dans notre collectif sur comment nous placer là avec le sou, quelle était la bonne approche. Et bon, voilà, nous, enfin voilà, on a eu une expérience qui n'était pas forcément celle partagée. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre par Cédric. Bon, voilà, donc c'était un peu, ça m'a permis de prendre du recul, de réfléchir. J'ai beaucoup écouté pendant ces rencontres pour écouter tous les points de vue. Voilà, c'était intéressant, notamment même en dehors hein, des conférences le soir. On a beaucoup parlé avec Mamie Geek, dont Inso parlait. Je crois dans le dernier rencontre des, enfin dans le dernier podcast des Monnaies Libres, parce qu'elle a le recul effectivement. C'est une personne qui a beaucoup de recul sur les logiciels libres, donc c'était intéressant de discuter avec elle. Puis bon, voilà, plein d'échanges. Donc ça a fait comment dire mûrir un peu notre réflexion.
Oui, donc bah, tout le monde, hein, je crois que tout le monde ne ressort pas des rencontres des monnaies libres sans avoir appris des choses importantes. On a vu aussi de grosses audiences hein, pour les conférences. Les salles étaient pleines, archi pleines, et il y avait même des gens qui étaient au bord des portes. Hein. Et il y avait une vraie demande d'approfondissement hein, de la part du public, on a vu ça. Hein.
Oui, pendant les journées grand public, ouais, effectivement.
Ouais. Alors CRML8, tu as aussi ben, présenté un petit peu Cesium, mais ça on va y revenir tout à l'heure puisqu'on va parler de Cesium. Et puis tu étais là aussi pour les journées Rampe 8, tu as participé, notamment alors tu as continué à travailler sur le module Galilée. Tu avais
Oui,
déjà un peu
parce que
commencé à Laval.
j'avais bien avancé à Laval, mais en tant qu'organisateur, c'était pas évident de se concentrer en réglant les problèmes logistiques. Donc j'ai voulu le refaire parce qu'il y a certains points qui me bloquaient. Bon, voilà, maintenant c'est bon, je vais pouvoir passer au module suivant.
Ah oui, d'accord.
Non, c'était sur les conclusions. J'avais loupé à Laval les conclusions du module que vous faisiez ensemble, enfin le débriefing que vous faites à la fin. Et donc cette partie-là me manquait. J'avais pas fait mes propres analyses des différents graphiques qu'on établit pendant ce module, qui sont intéressants, mais qu'on peut interpréter d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et donc notamment, ce qui me paraissait bizarre, c'était la comparaison entre les différentes unités économiques qu'on compare à travers différentes années. Et voilà, dans l'approche économique, on essaie des fois de plus voir les tendances, c'est ce que j'ai compris cette année, voir les tendances des marchés. Il y en a un qui monte, un qui est à la baisse, mais pas forcément de les comparer en numérique, en valeur, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est ça que j'ai appris un peu plus à comparer les tendances. Voilà.
Et alors, est-ce que tu as, du fait que tu aies participé comme ça, que tu as approfondi, bon, alors quasiment fini, tu n'as pas fini puisque tu n'as pas publié. Bon, alors, est-ce que tu vas publier
Ouais,
aussi
non, je pense pas que je publie parce que j'arrive au même graphique que les autres et puis j'ai voilà, maintenant moi j'ai bien compris le truc.
Oui,
Donc
puis tu as.
j'essaie d'économiser mon temps pour travailler sur Cesium. Voilà.
Voilà, oui, tout à fait, c'est ce que je dis. Bon, en général, les développeurs sont dispensés, puisque développer le logiciel, c'est au-delà même de commenter un résultat comme ça théorique, puisqu'on est déjà dans la pratique, hein. Donc, alors par contre, peut-être est-ce que tu as eu le temps de voir le compte-rendu qu'en avait fait Tatou?
Oui, tout à fait. Oui, mais c'est très
D'accord.
bien que ça aille jusque-là. Comme quoi, ça s'étend. Et puis, il n'y a pas que aux développeurs, effectivement. Tout le monde peut participer en faisant ce module, en publiant, en faisant de la pédagogie dessus. Je trouve que c'est intéressant.
Oui, bien sûr, tu as d'approfondir. Donc très bien. Et donc alors au final, peut-être ton compte rendu final de CRML8, peut-être en comparant par rapport à RML7, comment tu jugerais ces deux éditions et cette dernière en particulier?
Ce que j'ai jugé déjà, c'est le dimanche où on discutait avec Cédric, on avait déjà des publications de modifications de code. En tout cas, moi j'en ai eu sur Cesium. Donc c'est du concret, quoi, parce que sinon, voilà, on pourrait multiplier les rencontres des monnaies libres, former des ingénieurs, enfin des informaticiens, et ne jamais avoir de retour. Voilà, ça servirait à rien. Ils seraient formés à la blockchain, mais aussi bien, ils iraient faire autre chose que des monnaies libres. Donc ça nous fait une belle jambe, comme on dit chez moi.
Oui, c'est ça.
Et là, on a eu quand même des pull requests, donc des soumissions de modifications de code concrètes dès les jours techniques, quoi. Donc c'est positif. Voilà.
Oui, c'est
Puis ça
positif.
continue. Depuis, hein, ça continue sur Cesium. Alors c'est pas énorme encore, voilà. Mais bon, ça vient progressivement.
Ça, exactement, ça vient progressivement, il faut être patient et on sait que l'informatique, ben, ça prend du temps de rentrer dedans, effectivement, ça prend du temps de s'approprier le code, ne serait-ce que d'un seul logiciel, souvent, hein, ça peut même prendre des années, hein, ça dépend de la complexité, bien sûr. Alors, donc très bien, voilà pour ce petit bilan RML8, effectivement, bon, moi je dirais ça aussi comme ça, avec un niveau informatique qui progresse d'édition en édition, et une audience aussi qui est de plus en plus haut niveau, je dirais, sur le travail informatique. Alors, on arrive maintenant, l'actualité, on a changé dans le projet d'unitaire de monnaie de test. Il y a toujours dans un projet comme ça qui gère un objet généré tel qu'une monnaie. Bien sûr, il y a toujours une monnaie de test qui tourne. On avait testnet et maintenant on est passé à gtest. Alors comment tu pourrais décrire ce changement de ton point de vue pour les auditeurs, pour peut-être compléter ce qu'ont pu dire Cedric et Inso dans les dernières émissions sur
Bah,
Gtest.
voilà, ce qui était important, ce qui a justifié ça, c'est le nettoyage notamment du code, puisque un code qui vit quand on cherche à maintenir la compatibilité avec une monnaie qui tourne, eh bien on développe pas de la même manière que quand on part sur une nouvelle monnaie. Et notamment on est obligé de traîner du code qui est voilà, c'est des rustines quoi. Donc là l'objectif c'était vraiment de nettoyer toutes ces rustines et de pour pouvoir partir sur une monnaie propre et on n'avait pas d'autre choix que de redémarrer une autre monnaie. Donc Cédric en a profité donc pour bien nettoyer ça. Je crois qu'il a ajouté beaucoup de tests unitaires également. Il a beaucoup mieux structuré son code. Donc c'était en quelque sorte une validation de tout ce travail de fond qu'il a fait, qui se voit pas forcément d'un point de vue utilisateur. Hein. Entre testnet et gtest, je sais pas si les gens se sont rendu compte des changements, mais c'est plutôt un travail de fond, quoi, de clarification du code, nettoyage, etc. Et puis bah il y a la partie toile de confiance, effectivement, ou qui permet plus de tester d'un point de vue opérationnel, comment un postulant la toile de confiance, donc quelqu'un qui veut être membre de la monnaie, c'est-à-dire coproduire un dividende universel, comment il fait pour rentrer, comment on fait pour optimiser les certifications. Et donc tout ce travail-là, nous on avait vu qu'il y avait énormément de travail à faire quand on avait lancé nos tests sur le SOU, là, en Mayenne. Et on voit bien que il faut être une communauté importante de techniciens pour résoudre tous ces problèmes, quoi.
Oui.
Voilà. Donc c'est plutôt positif pour moi, là, tout ce qui est en train d'être résolu. On voit qu'on a du travail à faire sur l'aspect graphe, analyse des différents liens de la communauté pour optimiser les certifications, etc. Donc voilà, ça suscite de beaux travaux, je trouve.
Oui, de beaux travaux, effectivement, puis la découverte de nouveaux outils, comme peut-être l'a montré Inso, avec il a parlé de Neo4j,
Oui.
Neo4j.
Oui.
Mais il y en a d'autres aussi qu'on a pu voir sur les graphes qui jusqu'ici finalement étaient un peu ignorés parce qu'on avait autre chose à traiter pour valider la blockchain au niveau des transactions, au niveau etc. Il y avait toujours, bien sûr, la toile était là, mais on n'avait pas encore travaillé
Oui, avec eux une certification,
voilà,
effectivement.
avec une certification. Donc on n'avait pas travaillé la complexité, on n'avait pas travaillé les points théoriques qui avaient déjà été établis, et puis la visualisation graphique aussi de la toile. Alors Insole l'avait déjà fait un peu dans les versions de Sakia précédentes, mais finalement il a abandonné parce qu'il a vu que c'était du temps de calcul quand même important, qui parfois faisait planter la machine d'ailleurs, tellement c'était puissant. Mais voilà, il y a Neo4j, puis il y a aussi, moi j'ai vu un outil qui avait l'air génial aussi, que Cedric nous a montré sur le forum. Bon, qu'on n'utilise pas encore de manière systématique, intégrée, mais qui s'appelle GFI, je crois,
Ah oui, exact, oui.
et qui permet de voir des graphes en couleur, en montrant avec des sphères plus grandes les membres qui ont beaucoup de signatures, les sphères plus petites ceux qui n'en ont pas beaucoup, et donc de différencier les utilisateurs en fonction de leur niveau de densité dans la toile.
Ben on sent bien que ça va être le gros sujet là avant la mise en exploitation, donc d'une monnaie vraiment opérationnelle, c'est qu'il faut encore qu'on travaille là-dessus. Les aspects pratiques autour de cette gestion de la communauté, donc de la toile de confiance. Et
Oui.
effectivement, avoir des outils visuels, moi c'est ce que j'aimerais pouvoir ajouter dans Cesium, avoir des choses pratiques et rapides, ce qui n'est pas forcément facile avec effectivement les graphes, la manipulation de données sur les
Oui.
graphes, quoi.
Alors là, peut-être sur ce sujet-là, peut-être qu'il est intéressant de réfléchir au fait que dans l'informatique, on ne fait pas toujours du temps réel, on fait aussi du calcul différé, on appelle ça
Oui, c'est vrai.
du batch, c'est-à-dire qu'en fait on fait tourner la machine par exemple la nuit, hein, tout simplement, la machine tourne la nuit pour par exemple justement faire un état de la toile de confiance. Normalement la toile de confiance, bon, ben, elle bouge bien sûr un peu d'un jour à l'autre, mais pas, elle bouge pas de 0 à 100% d'un jour à l'autre. Donc faire tourner l'ordinateur la nuit pour faire des calculs de graphes, afin d'afficher un graphique, le graphique cherché. C'est pas forcément une mauvaise idée, ça peut être géré par un programme qui télécharge la base de données, l'analyse et passe la nuit, donc effectivement à faire les calculs pour que ça soit rendu le lendemain.
Oui, c'est dans ce sens-là que je dis qu'il faut que ce soit rapide dans la perception utilisateur. Donc, il faut sans doute préparer les données avant, de manière peut-être à avoir des fonctionnalités de suggestion de personnes à certifier pour réduire la taille, enfin, l'extension de la toile de confiance, puisque dans les monnaies libres, en tout cas dans Uniter, il y a une taille limite entre tous les liens différents, enfin, je sais pas comment on pourrait appeler ça, les liens de la toile de confiance. Il faut pouvoir restreindre cette taille, cette expansion. Donc voilà, il faut avoir des outils un peu comme on a dans les différents réseaux sociaux. Vous connaissez peut-être un tel. Et ça, il faut que ce soit rapide à l'usage. Enfin, c'est pour moi, c'est ça qu'il faut distinguer l'utilisation rapidité d'usage. Et puis après, s'il y a une préparation à faire, si c'est plus long, c'est pas grave ça.
Oui, mais il faut le prévoir dans le développement,
Mais
c'est-à-dire
il faut le
qu'on
prévoir, effectivement.
voilà. Donc au lieu de recréer la base, je dirais à nu, je veux dire à chaque
Oui,
requête
direct.
d'utilisateur, il y a un travail de nuit qui prépare le graphe général. Et quand un utilisateur ensuite veut le voir le lendemain, eh bien, en fait, on plonge dans ce calcul déjà fait pour ressortir très rapidement, eh bien, une image générée immédiatement sans calcul, quoi.
Oui, tout à fait. Oui.
Ouais. Donc alors, très bien. Donc ça, c'était, bah, je crois, sur GTest. Donc on peut dire, oui, sur GTest, donc cet accent qui est mis plus que dans TestNet sur effectivement l'analyse de la toile avec, comme disait Inso, ces paramètres qui ont été choisis afin que la toile ne dépasse pas 400 membres. Ça veut dire qu'on peut choisir des paramètres dans une monolithe pour que la toile ne puisse pas dépasser un certain nombre de membres.
Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pour que ça reste à taille humaine, et on peut dès le début effectivement paramétrer la monnaie pour pas qu'elle ait une extension infinie. Donc on sera clairement pas dans la catégorie de monnaie mondiale généralisée. Elle sera peut-être la monnaie de production qu'on lancera sera peut-être mondiale en termes d'usage, puisque bah, c'est Internet permet cela. Par contre, en termes d'individus, non, elle restera quand même à taille humaine ou voilà, pseudo-humaine. Donc c'est intéressant, je pense, parce que justement, ça permet de garantir que les outils soient toujours efficaces, que la sécurité autour de ces monnaies soit pas garantie, mais disons facilitée, puisque voilà, contrôler moins d'1 million de personnes, c'est faisable. Au-delà, bon, ça commence à devenir plus difficile. Les temps de traitement vont être plus longs.
Oui, et est-ce qu'on ne peut pas voir d'ailleurs ça comme, bah déjà dans le monde c'est déjà un peu le cas, il y a des monnaies diverses, ça n'empêche pas le monde de fonctionner, alors plus ou moins bien sûr, mais voilà. Et est-ce qu'on ne peut pas voir ça aussi comme Internet, ou finalement, parce que Internet finalement c'est pas vraiment des ordinateurs qui sont connectés les uns aux autres en direct, c'est la plupart si ce n'est tous les ordinateurs connectés aujourd'hui sur Internet, sont en fait des mini Internet, des intranets en fait, qui se connectent entre eux.
Oui, je comprends ce que tu veux dire. Et d'autant plus que maintenant, il y a les VPN, la Virtual Private Network, qui permettent
Ouais.
de faire un réseau presque local dans son utilisation, donc des machines qui se voient entre elles de manière privilégiée, et en étant vraiment sur toute la surface du globe. Donc c'est par exemple une entreprise qui aurait un bureau, un siège à Paris, un siège à Londres, où ils peuvent très bien relier leurs ordinateurs comme sur un réseau local, mais en utilisant Internet et un réseau privé virtuel. Donc c'est vrai ça s'approche un peu de ça, c'est-à-dire une sorte de toile avec des niveaux infinis en fait.
Ouais, ça serait un VPN de la monnaie, quoi, en fait.
C'est ça. Bah, dès lors que après il y a des protocoles qui compatibles avec les différents réseaux ou sous-réseaux, ça pose pas de problème, c'est presque transparent effectivement pour l'utilisateur. Alors pour une monnaie, je sais pas comment ça sera, parce que la donnée en elle-même est pas neutre. La donnée, l'unité monétaire n'est pas neutre, c'est pas comme un document qui voyagerait, donc il peut passer d'un réseau à un sous-réseau et
Et oui,
enfin,
parce que
l'analogie s'arrête là, quoi.
C'est chiffré et on ne peut pas en disposer comme on veut, quoi, bien sûr.
Ouais, puis ça porte une valeur différente, quoi.
Oui, bien sûr, la valeur est différente aussi. D'accord, donc, d'accord, ok. Alors, on va passer maintenant, donc après ce balayage de GTS, forcément, bien sûr, à Cesium, voilà, qui est quand même voilà, le projet sur lequel tu es lead, hein, lead développeur sur Cesium, hein, vraiment. Puis alors, vraiment, tu es à fond, hein, parce que. Ces 2 derniers mois, là, on peut dire que tu as mis le turbo. Alors, tu as dû adapter tes Cesium justement à cette nouvelle monnaie de test GTest, un petit peu comme l'a dit Inso, parce que GTest suppose une évolution importante du protocole d'unitaire. Alors, en quoi tu as dû faire des changements? Est-ce que toi aussi, tu as dû finalement abandonner des parties de code? En fait, comment ça s'est passé?
À terme, oui, il y aura sûrement des parties. Pour l'instant, j'ai réussi à maintenir compatibles les deux. Donc, bon, on s'était préparé en amont puisque avec les travaux qu'on a fait sur le sou, j'avais vu pas mal de problèmes liés au démarrage d'une monnaie. Donc, je m'étais préparé. Cesium était en fait un peu en avance par rapport à ça. Donc, quand on a démarré GTest, bah, il y a déjà des choses qui étaient prêtes. Donc voilà, après le protocole en lui-même de Dunitaire qui a évolué, c'était d'un point de vue client, c'était pas forcément énorme, puisque c'était essentiellement des versions, donc c'est des chiffres, hein, dans les documents, c'est-à-dire des documents, des fichiers en fait, qui voyagent entre les nœuds qui gèrent la blockchain et les clients, enfin qui sont émis par les clients et qui vont vers les nœuds plus exactement. Donc tous ces documents, tous ces fichiers ont un numéro de version pour que les nœuds puissent savoir comment les interpréter. Et donc bah, Cédric a tout simplement fait évoluer tout, à peu près tous les types de documents de Dunitaire. Donc bah, il fallait répercuter ça, mais ça s'est fait assez bien, je dirais. Voilà, enfin ça a été assez vite. En quelques jours, on a réussi au lancement de Gtest à avoir un, on a lancé une monnaie d'ailleurs entre les deux, un fake net,
Ouais.
pour bah, vérifier que tout ça marchait bien, quoi.
Ah oui, alors ça, raconte-nous, parce qu'on n'est pas au courant. Moi, j'ai pas suivi cette fake net,
Bah en
donc
fait,
qu'est-ce que c'est?
un
Ouais.
démarrage d'une monnaie, c'est toujours un peu particulier parce que la blockchain est dans un état un peu second, c'est-à-dire que le nœud qui démarre la monnaie n'inscrit encore rien dans les blocs. Il est le seul à valider puisque bah, au début, c'est un état un peu assez particulier. Mais je trouve ça assez marrant parce que finalement, dans l'histoire d'une monnaie, on le vit que quelques jours. Mais il faut que les outils marchent parce que les outils comme Cesium doivent permettre de s'enregistrer à cette monnaie qui va démarrer. Donc il faut les tester. Donc c'est un état avant le premier bloc en fait. Donc on aura sans doute à vivre ça. On n'en a pas encore énormément parlé avec Cédric, mais lors du lancement de la monnaie de production, on aura un nœud, hein, ou plusieurs nœuds, mais a priori un seul, c'est ce qu'il y a de plus simple, qui sera capable de récupérer les adhésions, les demandes d'adhésion comme membre et les certifications. Mais pour autant, il n'a pas encore démarré la blockchain, quoi. Enfin, le nœud n'aura pas encore démarré la blockchain. Donc on s'inscrivra, ce sera une sorte de pré-inscription, si on veut, avec un peu moins de règles que dans une fois que la blockchain est lancée, puisqu'on peut, on peut certifier, par exemple, dans l'outil Cesium, certifier n'importe qui. Alors qu'on n'est pas encore membre, puisqu'on n'est pas encore inscrit dans un bloc. Je sais pas
Ben oui, bien sûr,
si les auditeurs comprennent.
oui.
Donc voilà, donc on a dû tester ça avec une monnaie fake net. Ensuite, ben, on l'a mis en œuvre sur Gtest. Donc ça c'est assez bien fait. Je crois que sur le bloc 0, d'ailleurs je vais aller voir tout de suite, sur le bloc 0 de Gtest, on était déjà quelques-uns. Hein. Ouais, c'est ça, il y a eu 11 membres d'un coup. Et ça s'est fait assez vite, je crois, les inscriptions en quelques jours, un ou deux jours. Donc voilà, ça nous donne un exemple de ce qu'on va pouvoir vivre au démarrage d'une monnaie de prod. Il faudra, alors évidemment, ce sera sans doute plus que une journée ou deux, hein. Ce sera peut-être une semaine, 2 semaines, où les gens pourront s'inscrire de manière un peu plus facile, on va dire, que par la suite. Et à partir de là, bah, ils seront dans le bloc zéro, donc ils seront dans la première communauté de membres. Les membres fondateurs, en fait, on pourrait les appeler de la monnaie. On les a appelés comme ça, nous, dans le sou. On était 30 dans le sou, donc on a déjà vécu cette expérience. Et c'est important d'avoir un nombre assez grand si on veut que la toile de confiance augmente assez vite après, quoi. Parce qu'effectivement, dans une monnaie qui démarre, bah, il y a un peu du monde qui attend au portillon. Ça se bouscule au portillon, comme on dit. Il y a beaucoup de gens à vouloir rentrer et pour autant, on peut pas. La blockchain, enfin la monnaie, nous empêche de certifier trop de personnes d'un coup. Donc c'est un processus qui prend un peu de temps.
Oui, bien sûr. Et ça, c'est
Voilà.
normal. Ça permet aussi d'assurer justement, mais disons, la sécurité et la confiance, justement, de la toile. Ça devient une toile de confiance. Et il faut bien que ça soit un temps humain qui freine un petit peu la vitesse de déploiement, de manière à ce que chacun ait le temps de bien contrôler à la fois ce qu'il fait, mais aussi ce que font eh bien les gens qui sont proches de lui, afin de vérifier qu'il n'y a pas de fausses manip, de fausses manœuvres qui pourraient créer des soucis, quoi.
Oui,
Alors,
tout à fait, il faut prendre le temps, mais c'est vrai que c'est particulier parce que même si on a confiance en les 100 personnes qui doivent rentrer, on ne peut pas les faire rentrer de toute façon.
on peut noter aussi que par rapport à ce que tu disais, on peut faire une petite remarque théorique, c'est que cet avant-bloc, en quelque sorte, j'ai envie de dire le temps avant le Big Bang, hein, on dit qu'on ne peut pas remonter au Big Bang, mais si, la preuve, on peut le faire dans une monnaie libre. Il y a avant le bloc zéro. Il faut bien qu'il y ait des choses qui se fassent pour que le bloc zéro apparaisse, et oui. Et
C'est ça.
donc, il y a bien un avant Big Bang, en quelque sorte. Est-ce que Oui, voilà, la remarque théorique que je voulais faire, c'est qu'au début d'une monnaie, si par exemple il faut, on va dire, allez, 5 certifications pour qu'un membre puisse être accepté comme un nouveau membre, est-ce que forcément, ben, du coup, on comprend assez vite qu'il faut être au minimum 6 au départ? Parce que si on n'a pas 6 membres, on ne peut pas avoir les membres de départ qui ont tous les 5 certifications nécessaires.
C'est ça, sinon ils se feront sortir dès le bloc. Ils peuvent être considérés comme membres. Enfin non, je pense que même dans d'unitaire maintenant, il faut dès l'écriture du bloc 0, ceux qui n'auront pas reçu 5 certifications, leur propre certification vers les autres ne comptera pas. Et donc personne ne rentre finalement. Donc bon, donc effectivement, il faut veiller à ça. Alors bon, pour rassurer quand même les auditeurs, celui qui va lancer l'écriture du bloc 0 va quand même choisir les identités. C'est-à-dire que Cédric a fait en sorte qu'il y ait un choix manuel, parce que si, c'est sûr que si des pirates ou n'importe qui accèdent à notre nœud et commencent à créer des comptes en se disant chouette, les droits sont plus ouverts, je vais pouvoir me faire certifier. Bah non, en fait, ils pourront pas, parce qu'au moment de la décision, qui est une décision humaine de créer le bloc zéro, on peut exclure les identités qu'on veut.
Et puis même,
Voilà.
on peut le faire au sein d'un réseau privé. Ça se fait pas
Oui, tout à
forcément.
fait. Oui,
Voilà.
tout à fait.
Ce qui compte, c'est que
Mais
la
même si,
monnaie
ouais.
démarre proprement avec
Oui,
des
mais me,
données
moi je pense
cohérentes.
on pourrait le faire de manière ouverte pour la monnaie de prod, sachant qu'on fait le tri après de tous ceux dont on n'est pas certain. Voilà.
Voilà, oui, tout à fait, c'est possible aussi.
Ça permet d'avoir une plus grosse communauté de départ. Bon, voilà, faudra en discuter.
Ouais. Mais on peut aussi vouloir le. Bon, j'ai la beauté théorique du geste qui est de dire on prend le nombre minimum de gens qui permettent d'assurer le bloc zéro existe de manière cohérente et puis après tout se déroule selon les règles prévues sur la base de ce bloc zéro initial, quoi.
Bah, disons qu'il y aura forcément des pertes hein, de certification au début parce qu'on ne fait pas des certifications efficaces. C'est-à-dire que voilà, l'extension de la toile de confiance peut pas être 100% efficace. Il va y avoir des gens, par exemple, qui vont certifier en même temps, quasiment en même temps. Donc tu dois en avoir que 5, mais la personne va en recevoir 6. Bon, tu as perdu une certification. Bon, je pense que c'est. Bon, enfin, ce sera sans doute. La décision reviendra à Cédric de toute façon.
Voilà, je crois qu'il faut dire ça comme ça on se dédouane
Oui,
de...
non, et puis on fera comme suivant comment il a décidé, on s'adaptera.
Ouais, ce sera mieux pour éviter qu'on perde du temps là-dessus. Alors donc,
Exactement.
très bien, eh bien, on va ensuite, on va parler de Césium et on va d'abord devoir faire une pause musicale parce qu'on atteint déjà eh bien, la moitié de l'émission bon, qui va être riche, il va falloir qu'on accélère un peu si on veut tout traiter. Puisque bon, on n'a pas encore dit grand-chose sur Césium, alors que si, on a dit hein, l'évolution du protocole, mais on a plutôt parlé de G-Test et on a fait des remarques générales. Mais on va voir aussi qu'il y a des changements fonctionnels. Alors, donc, pause musicale, on se retrouve juste après. Est-ce que tu sais comment sont les monnaies sur les musiques sur Est-ce que tu sais comment sont les musiques sur Monnaie Libre, Benoît?
Bah, peut-être payante un jour, mais que en monnaie libre.
Ah oui, on peut dire ça aussi, effectivement, mais elles sont aussi libres, c'est des
Ouais, elles
musiques
sont
libres.
libres, ouais.
On a le droit, n'empêche, de pourquoi pas, de faire effectivement une donation aux auteurs qui en seraient très contents.
Et pourquoi pas, d'ailleurs, faudrait que tu fasses un compte
Il
monnaie
faudrait,
libre.
voilà, ils pourraient rejoindre un jour, pourquoi pas, une monnaie libre, et on pourrait leur remercier des musiques qui ont agrémenté cette émission, notamment beaucoup Triade, mais il n'y a pas que Triade, il y en a quelques autres aussi que j'ai pu tester. Voilà, donc pause musicale, on se retrouve juste après. Sur mon île, toujours avec Kimamina. Et nous voici de retour sur Monnaie Libre, toujours avec Benoît qui m'a mis là, hein, qui donc est développeur, le développeur Césium. Alors on a vu dans la première émission un petit peu son aperçu des Rebel 8, on a beaucoup parlé de Gtest, on a parlé de FakeNet un petit peu aussi, une petite monnaie aussi qu'on a un peu oubliée là, une monnaie je dirais quantique, hein, qui a apparu, qui a disparu aussi vite qu'elle est arrivée, et qui a permis de faire quelques tests. On a parlé donc d'évolution de Césium qui est en 0,90. Alors, Césium aujourd'hui, le jour où on parle, a beaucoup évolué. Alors, entre autres modifications, alors tu en as parlé un peu dans la première partie, il y a dans Césium aujourd'hui l'intégration, y compris d'un paramétrage concernant le démarrage d'une monnaie. Bon, très bien, mais pour un utilisateur, ça lui parle pas forcément beaucoup.
Oui.
Mais aujourd'hui, alors il y a une fonctionnalité qu'on va parler en premier, elle est toute fraîche, mais elle marche déjà très bien. Et elle est vraiment, je trouve, et je crois que tout le monde trouve que c'est assez génial pour rentrer justement dans le code de l'unitaire, puisque tu as fait quelque chose de visuel qui permet de voir à la fois le réseau des nœuds, que ce soit les nœuds membres ou les nœuds miroirs, tu vas nous expliquer en quoi ça diffère. Mais aussi, pour la première fois, on voit de manière graphique, alors on pouvait le voir aussi avant, mais de manière un peu difficile pour un non-informaticien, bon, il fallait quand même s'y connaître, alors que là, graphiquement, on voit la liste des blocs, enfin, oui, des blocs, en fait, on voit la liste des blocs avec leurs numéros, et on peut même cliquer dessus pour avoir leur contenu, savoir s'ils contiennent des certifications, des transactions. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans encore, mais tu vas nous expliquer ça. Alors voilà, donc ça c'est vraiment une fonctionnalité toute fraîche, hein.
Oui, voilà. Enfin, la vue réseau existait déjà, mais bon, il y avait des bugs et puis j'avais pas eu le courage de m'y atteler vraiment. Donc, je m'y suis mis depuis les dernières rencontres des monnaies libres. Donc, le scan des nœuds est quand même un peu plus fiable, on va dire, que ce qu'il y avait avant. Aussi des temps de réponse. Je sais pas si les gens, les utilisateurs ont peut-être pas fait attention, mais des temps de réponse, enfin, de rafraîchissement de la vue réseau qui sont largement meilleurs. Là, c'est de l'ordre de, c'est inférieur à 2 secondes en ce moment, je crois à peu près pour mettre à jour la liste. Bon, voilà ce qu'on pourrait dire sur le réseau. Et puis l'actualisation de la vue réseau qui est faite en permanence et qui bug moins, on va dire. Il y a encore des bugs, mais ça bug moins. Donc ça se met à jour au fur et à mesure. Avec Cédric, on a notamment mis, alors là, il faut activer le mode expert pour les informaticiens notamment dans les paramètres. On a notamment affiché la difficulté. Donc la difficulté, c'est le challenge un peu que doit résoudre le nœud pour pouvoir émettre un bloc à son nom, c'est-à-dire pouvoir inscrire des transactions, des certifications dans un document qu'on appelle un bloc et le signer numériquement et dire voilà, c'est moi qui l'ai fait. Donc chaque nœud a une difficulté qui lui est propre. En fonction de bah, s'il a émis beaucoup de blocs auparavant ou non. Donc plus il a émis de blocs dans une fenêtre de, je crois que c'est 20 ou 30 blocs, bah, plus la difficulté qu'il a à résoudre est importante et plus il va avoir de mal en fait à émettre ce bloc. Ça sert très concrètement et on le voit par cette vue réseau à ce que bah, la monnaie soit pas centralisée. Donc dans cette vue, vous verrez que si vous laissez tourner, vous allez voir des nouveaux blocs apparaître. Donc il y a le numéro de bloc qui est à droite. Et vous allez voir la difficulté qui va tourner en fait. Donc celui qui a calculé le dernier bloc va être handicapé, puisqu'il a déjà calculé plusieurs blocs d'affilée. Il va être handicapé d'un challenge tellement compliqué que en fait, en réalité, dans l'outil d'unitaire aujourd'hui, il va se mettre en attente. Il va même pas essayer de calculer les blocs. Alors Cédric me corrigera si je me trompe. Il va se mettre en attente. Il va attendre que les autres bah, sortent un bloc. Et donc ça permet vraiment que la sécurité soit répartie sur le réseau.
Oui.
Je sais pas si j'ai été très clair, mais
Oui, tout à fait. Ben, ça permet de faire tourner, quoi, au
voilà, de
final,
faire
voilà.
tourner. Voilà, c'est ça.
De faire tourner, que ça, donc, qu'il y ait une décentralisation, justement, de l'écriture dans la chaîne. Alors, à la fois, il n'y a que les membres qui peuvent écrire, c'est-à-dire qu'il n'y a
C'est
que
ça.
les nœuds qui possèdent effectivement les clés, et ce système de difficulté personnalisé permet d'éviter d'avoir une course à la puissance, puisque plus on veut aller vite, plus on est freiné.
C'est ça, ouais. Et puis ça monte très très vite en fait par rapport à Bitcoin. Donc ça c'est une des grosses différences où la difficulté de Bitcoin est beaucoup plus lissée. En plus, donc là, il y a quand même un encouragement à calculer des blocs dans Bitcoin puisqu'ils sont rémunérés. Donc le bloc comment dire, la création même et l'acceptation par les autres d'un bloc fait que celui qui l'a émis gagne des bitcoins. Donc c'est effectivement la course, quoi. Alors que nous, c'est pas le cas dans Uniter, ça c'est vraiment important. Donc ça en fait une blockchain vraiment décentralisée et qui a pas de raison de se centraliser. Voilà, il n'y a pas de raison monétaire de se centraliser. Alors ce qui est donc visuellement dans la vue sous Cesium, la vue réseau, vous verrez en haut en fait les nœuds qui ont le plus de chances de calculer le prochain bloc. En fait, c'est ceux qui travaillent, on pourrait dire, c'est un peu les nœuds qui sont en train de miner. Donc eux, ils sont descendus dans la mine. Et ceux qui sont tout en bas, qui ont une petite icône personnage là, qui sont des membres, des nœuds membres, des nœuds qui appartiennent à des membres, eux sont mis en attente, eux, ils se reposent en fait. Voilà.
Ouais, disons qu'ils sont un peu, disons, découragés surtout.
Oui, ils sont découragés, ouais. Mais de fait, ils essaient pas de calculer. Donc c'est voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur cette vue? Alors j'ai bon, ça c'est du détail, je vais pas en parler. Alors et donc j'ai ajouté à gauche de la vue, à droite pardon, les blocs, les derniers blocs calculés.
Alors voilà, donc on a la série des blocs.
Voilà. Donc on voit le
Donc on voit ce que c'est qu'un bloc,
l'horloge en
puisqu'on
fait.
voit les numéros. Alors, il y a un temps associé, c'est-à-dire qu'on sait à quelle heure ce bloc a été généré.
Voilà.
Alors, pour l'instant, le temps, je ne sais pas si tu l'as
Oui, alors
corrigé.
non, le temps est toujours et en retard, ça va être corrigé bientôt, mais
Voilà, il est en retard de 50 minutes, en gros, quoi.
voilà, c'est
Voilà.
ça.
Le temps est en retard de 50 minutes, ça va être corrigé. Donc, derrière, on voit là donc cette liste des blocs avec leur numéro. Puis, donc, on peut aussi, donc, simplement en cliquant dessus, on dire, ben voilà, on sait aussi que le bloc a été justement certifié par le nœud qui possède la clé de tel membre. Donc on sait, voilà, on sait d'où ça vient aussi. On sait que c'est ce membre-là qui a proposé le bloc, et après c'est le réseau qui l'a accepté, parce que l'ensemble du réseau a vérifié que tout était correct. Et donc en cliquant sur ce nœud, sur ce bloc, on peut aller voir son contenu. Alors, de deux façons, puisque dans une première façon, tu fais une interprétation graphique pour dire, ben, dans ce nœud, j'ai trouvé une certification, deux nouveaux membres, puis je ne sais quoi dedans, enfin, tu vas nous
Ben
expliquer.
voilà, ouais, les
Et
différents types de données, ouais.
les différents types de données qu'on peut trouver dans un nœud, où tu fais un résumé, je
Dans un
dirais,
bloc, ouais.
visuellement clair, mais aussi derrière, on peut aller voir carrément le contenu du fichier.
Voilà, c'est vraiment mon idée, c'était de faire un explorateur de blockchain. Je pensais pas que ça marcherait aussi bien en fin de compte. Parce que c'est voilà, ça s'est fait, hein, c'est un peu tombé en marche d'un coup. Il y a plusieurs informations dans cette vue. Donc il y a des lignes qui sont déjà repliées. C'est vraiment les blocs où il n'y a rien dedans. Alors ça, déjà pour un utilisateur, ça peut être un peu déroutant. Donc je les ai repliés pour simplement montrer que le temps passe finalement. Et comme une blockchain, c'est avant tout des ordinateurs qui se mettent d'accord sur un temps, le temps blockchain, eh bien ils vont émettre des blocs même s'il n'y a rien.
Ouais.
Bon, après, en pratique, en production, la plupart des blocs ont quelque chose de toute façon. Mais bon, donc ces blocs-là, ils sont repliés. Donc, mais on peut les voir si on clique sur la zone qui a été repliée. Hop, ça les déplie. Et effectivement, s'il y a des données dans le bloc, il est déjà un peu plus épais, un peu plus large. On va avoir un petit indicateur qui nous donne le nombre d'éléments, donc soit des certifications, des nouveaux membres. Des membres sortants, pour le moment dans GTest, il n'y en a pas, mais on les verra au fur et à mesure. Le nombre de transactions, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, c'est à peu près tout. Et puis les dividendes universels, s'il y a eu un dividende universel de versé par ce bloc. Donc voilà, donc, quand on clique dessus, ben, on a tout le détail. Alors j'espère que c'est exhaustif. Si ça ne l'est pas, on va améliorer les choses au fur et à mesure. Et puis il y a un lien, une fois qu'on a cliqué sur un bloc, qui nous permet de voir le fichier brut du bloc. Bah, pour comprendre, ça démystifie un peu finalement, c'est un fichier qui est assez lisible. Alors c'est du JSON qui s'ouvre, donc votre navigateur, il peut ou non l'interpréter, hein, donc ça peut être un peu ratatiné sur certains. Mais bon, il existe des plugins dans les navigateurs Chrome, Firefox, etc., qui permettent de le rendre un peu plus lisible. Et donc on voit que bah, c'est des champs finalement. Qui sont assez parlants, quoi. On va retrouver dans un bloc le numéro du bloc, donc ça c'est son identifiant un peu. On va retrouver une heure, bon, sous forme numérique, mais on va retrouver par exemple members count, donc le nombre de membres. On va retrouver monetary mass, donc la masse monétaire totale. Donc on voit que c'est pas si compliqué de rentrer dans les données, quoi.
Oui, c'est tant mieux d'ailleurs, hein, parce que ça permet, quand on veut coder aussi, bah, de mieux comprendre les données, de mieux savoir comment soit corriger des bugs quand il y en a, soit bien sûr faire des nouveaux programmes quand on veut gérer ces informations.
Alors,
Alors,
il y a ça, il y a
ouais.
pour les développeurs, il y a aussi, je pense, c'est pas à négliger pour les utilisateurs lambda, parce que ça permet de voir que la transparence, c'est pas sur le papier, quoi. C'est vraiment,
Ouais.
il suffit de faire une transaction vers un compte quelconque, avec un montant particulier, etc. Ben, on va le retrouver, on est capable, même un non-informaticien est capable de retrouver ce montant dans le fichier. Donc voilà, donc on voit que ben, la blockchain, c'est transparent, il n'y a pas d'entourloupe. Donc je pense, comme la monnaie, c'est beaucoup à voir avec la confiance, c'est important que cette transparence elle soit visible, quoi.
Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Qu'on puisse vérifier surtout que l'ensemble du protocole est bien respecté de manière rigoureuse, quoi.
C'est ça.
Alors, à propos de ça, à propos de cette fonction, enfin, de cette fenêtre de vue, il y a d'autres fenêtres de vue sur la monnaie. On voit des choses aussi sur la toile de confiance aussi. Bon, il y a les informations de paramètres. Il y a aussi une fenêtre où on peut faire des recherches de membres, donc soit déjà inscrits dans la blockchain, soit des gens qui sont en demande de rentrer. Hein, je crois qu'on peut les membres en attente, je crois qu'on peut avoir. On a aussi, je crois, une fonctionnalité qui a les derniers membres qui sont rentrés avec une liste des derniers membres.
C'est
Avec
ça.
peut-être un jour, il y aura une fenêtre de paramétrage pour dire entre quelle date et quelle date je considère que c'est les derniers, parce que les derniers, c'est pas clair. Est-ce que c'est les derniers du
Ah bah
dernier
là en
bloc?
fait ça va être tous les membres parce que tu peux dérouler
Ah,
avec
on peut
la
dérouler
souris.
jusqu'au. Ah oui,
Voilà.
d'accord. Ah
Là
oui.
j'ai généralisé dans Cesium des ascenseurs intelligents, donc
D'accord.
ça met pas de temps à charger, mais si tu déroules, ça continue, quoi.
D'accord. Alors, je voulais mettre l'accent, en profiter pour discuter avec toi de ce point en même temps. Justement, j'ai réfléchi au fait que toutes ces fonctionnalités-là, finalement, quand on rentre dans Cesium, on n'a pas besoin de se connecter pour les voir. Parce que c'est des vues, on n'a pas besoin d'être membre pour y accéder. Hein, et on n'a pas besoin d'être connecté non plus pour faire ces requêtes-là. D'accord. Donc en fait, ça veut dire que c'est des éléments généraux de vue sur la blockchain, de requêtes pour les annuaires, d'informations pour savoir, ben voilà, par exemple, typiquement, si je veux certifier quelqu'un, eh bien, je fais une recherche, je vois déjà par qui d'autre il est certifié, je vérifie que c'est bien la personne que je pense que c'est, je peux me renseigner auprès de ceux qui l'ont déjà certifié, je les appelle au téléphone et je leur dis, tiens, en fait, c'est qui? Et je peux l'appeler lui, après, etc. Bon, bref, voilà. Donc, ça permet de faire servir affiliation personnelle, voilà. Mais donc, cette partie-là de Cesium, finalement, est une partie non personnelle qu'il faut bien séparer de la partie qui concerne vraiment son compte personnel, finalement. Parce que...
Oui, ça a pas de lien direct. Alors malgré tout, bon, avant de certifier quelqu'un, on a quand même besoin de consulter son compte, voir par qui il est certifié. Donc il y a quand même certaines parties. La partie réseau, monnaie, ça je suis d'accord. Ouais.
Ouais.
La partie annuaire, c'est quand même plus lié à l'usage en lui-même de notre compte. Mais ouais.
Ouais. C'est des fonctionnalités, voilà, qui sont assez générales et voilà, qui ne demandent pas en tout cas de se connecter. Après, il y a des fonctionnalités, on va en parler, qui demandent de se connecter pour voir son compte. On fera une petite remarque aussi là-dessus. J'essaierai de me rappeler la remarque. Alors, oui, je voulais en profiter aussi pour rappeler peut-être qu'une évolution possible aussi dans Cesium, dans l'état où il est aujourd'hui, c'est qu'autant aujourd'hui, donc effectivement maintenant tu as créé un onglet supplémentaire, il y a un onglet monnaie, il y a un onglet donc maintenant réseau,
Oui.
et puis on s'attend à ce qu'il y ait un onglet toile de confiance aussi qui apparaisse et qui ne soit pas dans l'onglet monnaie, parce que la toile de confiance est différente de la monnaie aussi.
Tu veux dire des aspects graphiques, enfin en graphe ou...
Même la partie paramètres, c'est-à-dire que dans la partie aujourd'hui, c'est dans la, il faut cliquer dans monnaie pour avoir à la fois les paramètres de la monnaie d'un côté.
Ouais, en fait, ça aurait pu s'appeler règle plus que monnaie.
Mais oui, mais bon, règles, pourquoi pas, mais c'est les règles monétaires en tout cas. Et
Oui, règle monétaire, ouais.
on pourrait séparer la partie règles monétaires, et puis il y a des informations sur la monnaie quand même, puisqu'on a la masse monétaire, on a le dividende actuel, on a tout un tas d'informations aussi, qui ne sont pas les paramètres, mais qui sont les données actualisées. Et pareil pour la toile de confiance, on pourrait avoir les paramètres de la toile d'un côté, qui font partie du bloc zéro en quelque sorte, hein, voilà, enfin, c'est sûr même. qui font partie de la génération initiale, mais aussi l'état de la toile, c'est-à-dire combien de membres, etc. Ça, c'est pas quelque... même si c'est un rapport avec la monnaie, puisqu'on peut avoir la masse par membre, etc. Il y a quand même des informations purement toile de confiance qui peuvent être aussi dans un onglet à part, quoi. Comme ça, on peut avoir monnaie, réseau au niveau technique, puisque voir les nœuds et les blocs, bon, c'est de la technique, ça dit pas ce qu'il y a dedans. Et puis voir ce qu'il y a sur la monnaie, c'est voir quand même combien de chiffres il y a, quel est le taux de croissance, etc. Bon, très bien. Et la partie toile de confiance, on n'a pas forcément besoin de connaître ce qu'il y a dans la monnaie pour voir combien de membres, combien, je sais pas, de certifications sont nécessaires, combien de certifications ont été émises, ou j'en sais rien. En fait, toutes des informations qui concernent la toile.
Oui, bah ça va se faire au fur et à mesure, je pense. Après, les aspects graphiques, c'est pas. Enfin, j'aime bien prendre mon temps pour voir ce qui est utile, ce qui ne l'est pas, ce qu'on retourne, les fonctionnalités vers lesquelles on retourne, quand est-ce qu'on les consulte. Voilà, parce que c'est très lié à la fréquence. On rajoutait un bouton sur un menu très visible comme la gauche, comme celui qui est à gauche de Césium. Bah on va le voir en permanence. Alors, si on clique dessus qu'une fois tous les 4 ans ou qu'au démarrage, bon, ça, c'est de la pollution visuelle, quoi. J'aime pas. Donc
Ouais.
j'aime bien vraiment faire un truc minimaliste si c'est possible.
Mais bon, tu vas y
Mais
venir,
ouais.
tu vas y venir. C'est pour ça
Oui,
que je te dis
mais
ça.
après le terme monnaie est peut-être à revoir, effectivement.
Ouais.
Alors il y a un autre truc qui m'a demandé beaucoup beaucoup de temps. Ça m'a
Ouais.
demandé presque un mois, hein, donc c'est quasiment invisible à l'usage. C'est les notifications. Je sais pas si
Oui.
toi-même tu as eu
Ah oui. Il y a
à voir ça.
une cloche en haut maintenant,
Voilà,
effectivement. Ah oui, c'est super ça.
donc
Ouais.
alors si une des grosses évolutions, c'était également le découplage de tout ce qui était place de marché et annuaire des professionnels que j'ai retiré. Et donc l'extension qui avait avant un nom un petit peu, enfin, qui avait pas de nom d'ailleurs, maintenant s'appelle vraiment Césium Plus. Donc c'est toi d'ailleurs qui avais suggéré ce nom-là. Et donc dans Césium Plus, outre les aspects profils que les gens connaissent peut-être, ben, il y a cet aspect notification qui permet de voir un peu le bilan de ce qui s'est passé sur notre compte
Oui.
depuis notre dernière connexion.
Oui,
Voilà, donc
voilà. Donc
le but c'était de à terme peut-être même avoir des avertissements, pourquoi pas par email ou voilà pour tiens on a reçu un paiement. Parce que sinon, on a l'impression, on pourrait avoir l'impression, des utilisateurs lambda ont l'impression que bah il s'est rien passé finalement. Alors que si, ils ont peut-être eu une certification, ils sont peut-être à une de rentrer comme membre. Donc voilà. Donc notamment au démarrage d'une monnaie, je pense que c'est important qu'ils voient ce qui se passe voilà, sur leur compte.
oui, bien sûr. Donc alors effectivement, donc on peut bien sûr dans Cesium toujours se connecter, voir alors le compte membre. Alors faut savoir que aussi il faut préciser quelque chose ici parce qu'apparemment on peut se apercevoir que des gens qui voient ça de loin ne comprennent pas ça. Mais si on le souhaite, en fait, enfin c'est même pas si on le souhaite, c'est que sans doute ça sera le cas. En fait, on peut anonymiser entièrement son activité en monnaie libre parce qu'en fait dans l'unitaire il y a les comptes membres qui ont des caractéristiques particulières parce qu'ils font partie de la toile de confiance, c'est les êtres humains, ils sont certifiés par d'autres êtres humains, bon, très bien. Mais en fait, on peut envoyer de la monnaie sur n'importe quelle clé, y compris des clés qui ne sont pas membres. Et donc, ça veut dire que toute sa monnaie qui est créée, par exemple, par chaque dividende, par exemple, on pourrait très bien imaginer une fonctionnalité de ce type-là, ou une autre, hein, bon, peu importe ce qu'on fait, mais chaque dividende, au lieu de le laisser sur son compte membre, on pourrait l'envoyer sur une clé non membre.
Oui, je pense qu'à l'usage, c'est ce qu'il faudra, enfin, c'est ce qu'on recommandera. En tout cas, moi, c'est ce que je ferai.
Ouais. Donc ça veut dire que c'est comme si on crée des pièces, en quelque sorte. Mais là, du coup, on ne sait plus à qui ça appartient. Parce que on peut l'envoyer sur une clé à soi, mais on peut aussi l'envoyer à une clé qui est gérée par quelqu'un d'autre.
Oui, alors oui et non, parce qu'on va savoir, on peut remonter dans l'historique d'où vient, de quel, comme toute la source dans une monnaie libre, la source de la monnaie, c'est forcément un être humain. Par le dividende universel, on va forcément savoir d'où revient. Il faut remonter, c'est un peu compliqué, mais ça se fait de manière informatique.
Non, mais tu peux remonter, mais tu sais pas. C'est
Par contre,
quand tu envoies ta monnaie sur une clé non membre,
oui.
personne ne peut dire si cette clé t'appartient ou appartient à quelqu'un d'autre.
Ah oui, tout à fait,
Donc,
oui.
du coup, à partir de là, la monnaie est
Oui,
parfaitement
mais bah,
déconnectée de l'émetteur.
ouais, bah, dans les faits, sur le Bitcoin, ils arrivent à identifier à peu près, pas toutes, mais la plupart des grands mouvements, parce que En fait, ils arrivent à remonter qui utilise souvent ou qui verse son DU le plus souvent, enfin, ou ses
Oui,
sources de
d'accord, mais
monnaie dessus.
ça reste,
Bah, par contre,
c'est pas une preuve, c'est juste
par, oui, c'est
une,
pas une preuve. Et puis,
c'est.
par contre, il y a d'autres voies, je pense, qui seront plus à privilégier. Enfin, ça, c'est mon avis. Pour l'anonymisation, c'est de passer par des tiers de confiance
Bien sûr.
qui, eux, mélangent différentes monnaies, enfin, comment dire, différents
Source,
comptes
ouais, des sources.
de plusieurs utilisateurs. Donc, par exemple, toi et moi, on a le même. Tiers de confiance pour gérer nos paiements un peu plus pratique, on va dire, ou plus rapide, ou j'en sais rien,
Ouais.
eh bien on va le verser sur un même compte. Donc là, les unités de monnaie vont être complètement mélangées et
Ouais.
on va passer un ordre de virement donc par un outil qui peut être complètement indépendant de la blockchain,
Bien sûr.
un ordre de virement un peu comme fait Visa aujourd'hui, par exemple, pour payer avec une carte ou imaginer enfin, tout ce qu'on veut. Payé par SMS, par chèque. Et en fait, ce tiers de confiance, quand il va recevoir l'ordre par le moyen donc, que j'ai cité, il va utiliser n'importe quelle source pour faire un virement. Et là, ça devient impossible, puisque tout est mélangé, de savoir à qui appartient quoi. Il n'y a que le tiers de confiance qui, lui, sait. Évidemment, s'il se fait pirater, vous allez me dire, mais c'est pareil pour les banques aujourd'hui.
Oui.
Voilà, donc c'est à mon avis c'est la meilleure façon d'anonymiser, c'est-à-dire c'est de mélanger. Alors, je sais plus le terme en anglais, mais bon voilà, c'est
To
de
mix.
mélanger les sources.
to mix the source.
Voilà.
Oui, voilà, donc tout ça pour dire qu'au final,
C'est faisable.
c'est plus que faisable, c'est même certainement ce qui sera fait. Parce
Oui.
que, parce que même si on fait une transaction légitime pour X raisons, on n'a pas forcément envie que ça soit tracé. Voilà, donc c'est quelque chose qui est faisable, que d'ailleurs aujourd'hui on peut déjà faire. Par exemple, quand on retire de la monnaie en liquide aujourd'hui d'une banque, au final, ça revient à faire ça. C'est-à-dire qu'au final, le billet, comme dit l'autre, n'a pas d'odeur. C'est-à-dire qu'on ne sait plus d'où il vient et on ne sait plus qui l'a émis, etc. Et quand il revient à la banque, il est passé par 10 000 mains, il a payé 10 000 services et on ne sait pas du tout, on sait pas du tout finalement, retracer cet ensemble de liens. Voilà. Même si théoriquement on pourrait avec, je sais pas, on pourrait tracer l'ADN qui est sur le billet, j'en sais rien. Mais il faut quand même se lever tôt, quoi, et puis pour un coût exorbitant. Voilà. Donc tout ça pour dire que l'anonymisation est tout à fait gérable. Il n'y a que la création finalement qui ne l'est pas, mais la création c'est pas une transaction.
Alors, on travaille également sur un autre aspect qui va bientôt arriver, un peu pour. Alors ça, c'est le retour d'expérience qu'on a eu sur les tests utilisateurs sur le SOU, donc qui utilisait un Duniteur 0.80. C'est donc tout ce qui est lié aux pertes d'identifiants, puisqu'on a eu beaucoup de gens qui se sont trompés lors de leur première connexion, création de compte, ou qui n'ont pas retenu leur mot de passe, ou voilà, et qui ont perdu leurs identifiants. Et effectivement, c'est très déroutant pour eux, pour nous informaticiens moins, mais pour eux ça l'est parce que il n'y a pas de fonctionnalité de récupération de mot de passe, puisqu'on est en prise directe avec ses clients comme le Cesium ou Sakia, on est en prise directe avec la blockchain, il n'y a pas de tiers de confiance, il n'y a pas d'intermédiaire, et donc on n'a personne vers qui se retourner quand on perd nos mots de passe.
Ouais.
Donc on est en train d'imaginer, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus, mais justement pour pouvoir faciliter cet usage de compte, comme tu disais, compte tiers, enfin un compte quelconque et pas un compte membre, comment faire pour pouvoir se connecter peut-être plus facilement qu'avec deux identifiants, donc un identifiant secret, là, ce que j'ai appelé dans Cesium la phrase de protection et le mot de passe, peut-être un code PIN, peut-être voilà un simple numéro plus code PIN, parce que on se connecterait pas directement sur le compte clé qui est celui du dividende universel. On est aussi en train d'imaginer des fichiers de sauvegarde, donc avec une stagiaire là que j'ai qui travaille à plein temps sur Cesium pendant quelques semaines, et des fichiers de sauvegarde qui permettraient de stocker de manière sécurisée sur notre sur un disque, sur une clé. Nos clés secrètes, clés privées, clés publiques qui permettent d'accéder au compte, mais de les chiffrer avec des phrases, des questions, enfin questions et réponses, un peu de phrases très compréhensibles et très mnémotechniques. Par exemple, votre premier animal de compagnie, enfin le nom de votre premier animal de compagnie, le film préféré, le nom de votre, le prénom de votre arrière-grand-mère, etc. Donc il y aurait un ensemble pour sauvegarder vos identifiants et être sûr de toujours les avoir, pouvoir faire une sauvegarde via un ensemble de questions-réponses auxquelles que vous choisissez, hein, donc pouvoir choisir 5, 10, 20, 30 si vous voulez, questions, et ça sert à encrypter vos identifiants dans un fichier, et du coup vous êtes le seul à pouvoir y accéder à nouveau, quoi.
Ouais. Oui, une autre solution, c'est de générer deux ou trois, comment on appelle ça, hashcode là, comment ça s'appelle ça, c'est les carrés là avec tous
Ah oui, des flashcodes,
les
des
flashcodes.
QR
On
codes. Ouais.
génère deux QR codes ou trois ou quatre, peu importe, en tronçonnant le mot de passe, parce qu'en fait il n'y en a qu'un, il est en deux parties, mais c'est un gros mot de passe en fait, hein, ça revient à faire ça, hein. C'est comme si on l'avait coupé au
Oui.
milieu, hein, c'est rien d'autre, hein. Et bien on pourrait le couper encore en deux si on voulait, par exemple, on fait quatre flashcodes qu'on imprime et qu'on sépare, qu'on stocke dans quatre endroits différents, ce qui fait que si quelqu'un le trouve, ben, il ne trouve pas les autres, et puis le jour où on a perdu son mot de passe, il suffit de les réunir, quoi. Voilà. Donc, il suffit de les décoder un par un séparément, comme ça on ne prend jamais le risque de les avoir ensemble. Et une fois qu'on les a décodés, ben on se rappelle son mot de passe.
Oui, enfin, on voit qu'on n'a pas de problème enfin, de solution. En fait, on va trouver des solutions pour que, voilà, il y ait des moyens de récupérer son compte.
Voilà.
Alors, il y a une autre solution aussi par rapport au QR code qui sera, enfin, que là, c'est sûr, on va faire. C'est qu'à l'inscription, vous pourrez justement générer un QR code de révocation. Donc, ça permet d'imprimer, par exemple, ce document ou de le stocker sur votre ordinateur. Et si jamais vous perdez vos identifiants, pour recréer un nouveau compte, pour que la communauté vous accepte, il faut révoquer l'ancien. Donc, et vous aurez ce document qui sera tout prêt à l'emploi, qui permettra de révoquer. Donc c'est une autre solution qui permet de repartir sur un nouveau mot de passe facilement, quoi.
Oui, alors si on le révoque, est-ce qu'on pourra garder le même identifiant, le
Ah
même
non, et tu
UID?
recrées un compte. Par contre, le pirate qui t'a récupéré, qui a accès à ton compte, lui, il peut plus rien faire. Enfin, il peut, alors si, il peut venir vider ton compte si tu l'as pas fait avant. Mais il aura, comment dire, il y a plus de dividendes universels qui vont être versés sur ce compte. Il est définitivement mort. Donc lui, donc la clé publique qui l'identifie et le pseudo qui y est associé. Donc il faut recréer un compte. Mais bon, il n'y a pas de raison que la communauté, enfin ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de raison que la communauté rejette quelqu'un qui est de bonne foi, qui a révoqué son compte, c'est vérifiable dans la blockchain, bah oui, tu as révoqué ton compte, donc tu n'en as plus, donc je te recertifie.
Mais même l'UID est perdu aussi.
Oui, ouais.
D'accord. C'est
Mais
pas,
bon,
c'est pas.
c'est pas forcément un souci, ça, c'est.
D'accord. Non, mais comme le compte, comme il y a aussi clé privée, la clé, enfin la clé publique associée, on aurait pu garder, pouvoir garder le même UID. Si on avait révoqué l'ancien, on aurait pu dire, ben, l'ancien UID n'est plus utilisable, ce compte n'est plus membre, donc on peut recréer un UID avec une clé différente.
Bah, je pense que le but, c'est pour éviter la subtilisation d'identité,
Ouais.
parce que les gens qui mémorisent l'UID, qui n'ont pas fait attention à la clé, ce qui va être
Ouais.
quand même la plupart des cas, si tu arrives à récupérer le document de révocation de quelqu'un, tu révoques son compte, bon, bah, si tu peux pas réutiliser l'UID, ça te fait une belle jambe, quoi. Tu l'as embêté, mais il peut recréer un compte. Par contre, si tu peux recycler son UID, là, tu peux te faire passer pour lui, et c'est un peu plus gênant.
D'accord. Alors, très bien. Alors, on va arriver, parce que là, l'heure tourne, on va dépasser le temps, mais on va pouvoir peut-être justement conclure sur cette dernière partie. Avec toi sur alors sur la Mayenne un petit peu donc l'association Le Sou quelles sont vos activités, comment ça évolue? Alors vous avez avancé dans votre réflexion sur l'organisation, comme tu disais vous étiez 30 disons bien conscientisés depuis les RML7 hein, sur le sujet vous aviez lancé une monnaie de test bon voilà. Alors donc vous en êtes où à ce niveau-là et quelles sont vos activités? Est-ce que parce que quand on voit ce que fait Monnaie Libre Occitanie, on peut dire que c'est quand même un joli modèle. Ils font des conférences, ils font des jeux Economicus régulièrement. Je crois qu'ils vont être à leur 5 ou 6e depuis 6 mois, quasiment un par mois, puisqu'ils en ont fait. Ben, il y en a eu deux ouais, pendant les RML8, bien sûr, mais ils en ont fait deux avant, aussi un à Montauban, je ne sais pas où. Il y en a un qui va être fait à Montpellier bientôt. Et ils font des install parties aussi, et je crois que ça marche très bien, ça surtout quand on veut s'adresser à des informaticiens, c'est là où on peut effectivement les informer sur le sujet de manière la plus efficace possible, puisqu'on parle de logiciel libre, on fait des installations, on peut installer de l'unitaire. Donc, ils sont associés à des install parties toulousaines pour non seulement contribuer au développement des logiciels libres, mais en même temps aussi donc installer et expliquer le fonctionnement d'unitaire qui lui-même est un logiciel libre. Donc, ils font des install parties d'unitaire. En rejoignant la communauté libre locale. Voilà. Donc, est-ce que en Mayenne, vous en êtes là? Quelles sont vos activités?
Alors bon, je me garderais bien de nous comparer parce que nous on est assez attachés à la complémentarité. Je pense que c'est ça qu'il faut viser. Il n'y a pas de, je dirais pas qu'il y ait une recette toute faite. La communauté humaine qu'on anime, c'est bah, c'est propre à notre communauté, les gens qui sont dedans, leurs aspirations. Déjà moi le gros la grosse étape qui est très importante qu'on a franchie les derniers mois, bah, c'est de passer à cette vision locale vers une vision d'une monnaie plus large, mais sans nous renier, parce que on a pris le temps et pour moi c'est capital parce qu'on n'a perdu aucun de nos membres en faisant cette passation, c'est-à-dire cette approche, une monnaie qui s'appelle le sou localement qu'on utilise localement. On est passé conceptuellement, le sou est quand même important, à une monnaie qui n'a plus de frontières, donc c'était plus les mêmes valeurs. Hein. A priori comme ça derrière. Donc on est passé, on a fait ce saut-là depuis les rencontres des monnaies libres de Toulouse, mais sans perdre un seul membre. C'est-à-dire les gens nous suivent parce qu'on a pris le temps de les écouter, d'écouter les questions de chacun. Et ça, donc ça produit rien de l'extérieur de la Mayenne, a priori, sauf que pour moi c'est important parce qu'on a toujours notre équipe qui s'étoffe. On continue de faire des réunions pour les nouveaux bénévoles. On en a fait plusieurs depuis septembre. Et à chaque fois, on a des gens qui viennent, qui nous ont suivis, rencontrés sur les stands, bah, qui maintenant veulent s'engager auprès de nous. Donc il y a une commission Jeux Economicus. On a fait un jeu en décembre, par exemple, où bah, les animateurs, c'était la première fois qu'ils animaient. Alors le compte-rendu va pas tarder, je pense. Bon, voilà, donc ils sont autonomes. On a un groupe de Lorne qui nous a rejoints, et comme c'est assez, c'est des commissions assez autonomes, bien ce groupe-là, donc qui sont venus en partie, il y en a trois qui sont venus aux rencontres des monnaies libres à Toulouse. Bah, maintenant, ils organisent aussi des conférences, install parties ou jeux dans le département voisin. Donc ça, c'est prolifique, quoi. Mais voilà. Donc là, bon, si je résume, la grosse étape, ça nous a pris quelques mois, mais voilà, il vaut mieux prendre son temps des fois.
Ah mais oui,
Mais
parfois, oui, il faut être. Me dis
on a
pas ça, me
compris,
dis
on a
pas
compris
ça,
le.
me dis pas ça à moi qui explique
Ouais.
la théorie relative à la monnaie depuis 7 ans maintenant. Donc,
Oui,
bien sûr qu'il faut prendre son temps,
exactement.
évidemment.
Donc voilà, on a compris qu'on pouvait sans perdre notre âme. passer à une monnaie, on va dire sans frontières, une monnaie de production d'unitaires qui sera plus large. Alors, d'un point de vue technique, parce que on n'est pas assez d'informaticiens sur notre territoire aujourd'hui pour maintenir un fork, donc une version autonome de d'unitaires qui serait qui permettrait de rester compatible avec une monnaie le sou. On n'a pas la force aujourd'hui de le faire, donc ce serait suicidaire en fait pour la monnaie. Donc il vaut mieux qu'on soit sur une seule monnaie maintenue par tous les développeurs français et étrangers des monnaies libres. C'est plus raisonnable, on va dire, parce que d'Uniteur a encore besoin d'être coucouné, quoi. C'est un bébé, donc il faut des parents qui soient là, et c'est un peu cette communauté qui la coucoune. Mais pour autant, et ça, moi, je suis vraiment content. On a trouvé une solution pour favoriser, pour ceux qui veulent, en Mayenne, les échanges locaux. Alors, ça parle pas à tout le monde, le terme local, hein, mais c'est le terme de sens commun local, c'est-à-dire pour les achats alimentaires de produits qui poussent là où on habite, ce genre de truc. On a trouvé une solution, c'est simplement d'appeler le sou, notre réseau d'échange, en fait. Ce serait un réseau d'échange qui utilise la monnaie d'Uniteur, qui l'utilise localement, mais pas que. C'est-à-dire que cette monnaie, quand on part en vacances, par exemple à Toulouse, là où il y a des membres actifs de Monnaie Libre Occitanie, là, le collectif toulousain, eh bien on va pouvoir dépenser auprès d'eux. Et on aura quitté en quelque sorte notre réseau d'échange du sou.
Oui.
Voilà. Et donc, si on conceptualise encore, pour les informaticiens peut-être qui nous écoutent, c'est un peu, ou même les usagers des réseaux sociaux, c'est un peu comme des groupes ou des. Vous savez, dans les réseaux sociaux comme Facebook, il y a des pages. Ou des groupes qui permettent de réunir une communauté qui s'intéresse à un sujet particulier. Bah là, le sujet, c'est nous, on préfère échanger localement les choses qu'on peut acheter localement. Donc, on pourra adhérer à la fois au sou et à la monnaie libre, ou que à la monnaie libre, même en Mayenne, vous voyez. Donc, ça reste quelque chose d'optionnel et volontariste. On adhère en plus à autre chose. Voilà.
Oui, alors ce que tu dis, on pourrait le résumer, je crois que c'est assez bien, tu l'as très bien expliqué, mais on
Oui,
pourrait le
résume avec tes
résumer
mots.
d'une manière très, très rapide et très succincte en disant, tu arrives à la conclusion qu'il était possible de faire du local en faisant non pas une monnaie locale parce qu'elle aurait moins de poids et comme tu disais, il faut quand même la maintenir au niveau informatique. Alors évidemment, si chaque informaticien fait sa monnaie, au final, on n'aura pas un logiciel solide parce qu'on a besoin de travailler. Aussi, les informaticiens font partie de la monnaie. C'est-à-dire, à un moment donné, il va falloir aussi qu'ils puissent bénéficier de ce réseau monétaire, sans quoi leur travail ne sera pas reconnu. Donc, c'est important aussi qu'ils fassent partie de la même monnaie. Donc, ça, c'est un premier point. Mais bon, c'est pas ça que je voulais dire. C'est vous êtes arrivé à la conclusion que c'est possible de faire local avec cette monnaie qui soit effectivement utilisée sans frontières, en faisant finalement une monnaie complémentaire. Comme il peut y avoir le sol violette à Toulouse, mais sauf que le sol
C'est
violette
ça.
est indexé à l'euro, et là vous auriez une monnaie locale mayenne qui serait indexée sur une monnaie libre, ce qui est très différent en fait.
Oui, bah c'est exactement ça. Mais en fait, c'est pas si différent que ce que font les gens des monnaies complémentaires, effectivement, en termes d'impact, enfin comment dire, d'engagement bénévole qu'ils peuvent avoir. En fait, nous, ce serait le même type d'animation locale. On met en avant des valeurs. De notre terroir, d'échanger plutôt localement que aller acheter, je sais pas moi, des fruits à l'autre bout du monde. Ça a rien à voir. Enfin, c'est que des valeurs particulières. C'est presque militant. Et donc finalement, la monnaie libre n'a rien à voir avec ça. Elle vient en dessous. Elle est plus bas niveau. Elle est plus générique. Elle est dépolitisée. Et donc tout ce qui va être un peu plus politisé, même le fait de consommer localement bio ou tout ce qu'on veut, ben, on le sort de la monnaie. Et on appelle ça monnaie complémentaire, effectivement. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire par exemple, par le biais de cette adhésion libre, donc à ce réseau d'échanges, eh bien, on pourra aussi bâtir des systèmes de paiement connectés à ce réseau. Par exemple, une monnaie papier libellée le sou, accès, enfin, qui circule que dans ce réseau et qui défend les valeurs du réseau. Mais voilà, quand on part, on a des sous papiers. Quand on part à Toulouse, on peut aller à l'association l'échanger contre des unités de monnaie numérique d'Uniteur et partir à Toulouse avec notre portefeuille d'Uniteur plein. Voilà. Donc c'est on voilà. Donc par contre, ce que ça impacte pour nous et notre collectif a pris conscience de ça, c'est qu'au niveau des outils, Si on veut aller jusque-là, ben on a encore du boulot, même dans Césium. Il va y avoir des parties, alors je sais pas si ce sera dans Césium Plus ou dans Césium Group, ou je sais pas comment on l'appellera. Il y aura des parties aussi pour adhérer, enfin, ou rentrer dans un groupe. Mais c'est tout simple, c'est, on crée un groupe, c'est comme un tag, en fait, je sais pas, le sous, mais ça peut être ce qu'on veut. Et à partir de là, ben, les gens peuvent rentrer, de décider d'adhérer à ce groupe-là, de manière à qu'on puisse au moins se connaître par un outil quand même, qu'on puisse savoir qui appartient au réseau. Bon, voilà, ça demande un
Mais
peu de développement en plus, mais c'est...
ça aura d'autant plus de poids aussi, et je dirais, de pertinence que la monnaie libre sera établie et aura une valeur économique. Parce que si elle a de valeur économique dans 30 ans, parce que par exemple les informaticiens font des choses qui anticipent qu'elle existe alors qu'elle n'existe toujours pas, eh bien ça va peut-être pousser l'arrivée d'une monnaie libre
Bah, je vois ce que
à
tu veux dire.
50 ou 60 ans
Ouais,
supplémentaires.
non, mais je vois très bien, je te connais maintenant, je vois très bien là où tu veux en venir, mais oui et non, parce que il est évident que, pour moi, que après les reculs, alors on est à peu près à 70 personnes, je crois 72 personnes sur le sou, là, dans notre monnaie, avec des règles, il faut 5 certifications, etc., des règles assez contraignantes pour rentrer, et on voit que l'identification des personnes, c'est vraiment un travail, une coordination, si on veut que ça se fasse bien, et que les gens... puissent finalement au bout de nous il y en a ça fait 2 mois et demi qu'ils attendent qu'ils puissent quand même finalement rentrer bah, il faut une coordination locale et est-ce que ça permettra ces étiquettes si on veut ou ces groupes qu'on ajoutera à notre profil bah, ça permet de rentrer en contact assez facilement avec des groupes locaux donc par exemple
Oui.
tiens il y a 2 gars en Mayenne qui sont inscrits ils sont proches de nous bah
Oui.
on va peut-être les inviter à une install party.
Oui.
On va faire vérifier leur identité, etc. Et donc, et s'il y a la même chose à Toulouse, bah nous, désolé, on va pas aller vérifier l'identité
Oui.
des gens à Toulouse. Donc,
Mais oui, vous les
je
connaissez
pense
pas.
que,
Oui, bien
voilà,
sûr.
bah oui. Donc, je pense que pour la naissance de la communauté et donc pour que la valeur prenne, enfin que la
Mais
monnaie
oui.
prenne de la
Oui,
valeur,
oui.
ça va quand même être important. C'est
Ah, mais
pas
peu.
énorme en développement, mais bon, il faut le faire. À
Ah
mon
si
avis, il faut
si
le faire.
c'est non mais tu as raison, c'est tout à fait important et d'ailleurs j'insiste là-dessus, il faut bien effectivement comprendre que la certification est avant tout et ne devrait être que quasiment à 95% dans 95% des cas une certification physique de gens proches qu'on connaît véritablement. Il faut surtout pas certifier des gens parce qu'ils sont présents numériquement sur Internet. Sauf si on les connaît directement, enfin, mais je veux dire, dans ce cas-là, on ne les connaît pas sur Internet, on est en contact avec eux sur Internet, mais on sait qui c'est, on peut les avoir au téléphone, on peut vérifier que c'est bien leur clé en leur parlant en direct, etc., etc., et voilà, donc voilà,
Bah, on voit que
c'est...
ça demande une organisation,
ça demande une
ouais, et
organisation, et
que voilà.
effectivement, et
Et
un
là, c'est
travail...
une force de faire des événements
Ouais.
réguliers, d'avoir un groupe qui se relaie.
Ouais. Et
Alors bon, voilà,
vous avez
ça fait
d'ailleurs aussi,
partie de...
vous avez fait une conf à la demande du revenu de base local.
Oui, alors c'est pas tout à fait local. Alors, il y a peu de membres du mouvement français du revenu de base en Mayenne, mais par contre, il y a un groupe qui s'est constitué à Angers. Et c'est eux qui nous ont contactés, sachant qu'on était déjà en contact avec plusieurs personnes à Angers qui voulaient qu'on vienne. Nous, notre politique un peu, enfin en tout cas la mienne, c'était de dire, bah, tant que nous, on n'a pas une monnaie à usage, enfin à utiliser, on ne se déplace pas. On fait des trucs en Mayenne. Bon là, il y a un groupe qui s'est monté dans l'Orne, mais ils sont autonomes, ils viennent ici, on les forme et ils repartent. Donc ça nous demande pas, ça nous pollue pas dans notre agenda. Mais on avait dit, voilà, on va pas à l'extérieur. Bon, là, il se trouvait qu'il y avait quand même pas mal de... Enfin, c'était quand même assez facile, c'est à 1 heure, Angers, donc on a monté cette petite conférence avec des membres effectivement, du revenu de base, des gens, des réseaux alternatifs aussi, des biocoop, enfin, qui tournent dans cette sphère-là un peu. Bon, c'est quand même pas si loin, moi, ça me semblait intéressant d'aller les rencontrer. Et
Ouais.
l'accueil a été très bon, et vraiment, on a été ouais, assez épaté de l'intérêt, 3 heures d'échange, quoi. C'était un groupe très jeune d'ailleurs, il y avait des gens, des lycéens hein, qui posaient des questions très pertinentes et tout. Voilà, assez intéressant et je pense que bah, ils ont bien compris une des limites bah, du mouvement français du revenu de base, notamment une des tendances qui est de vouloir financer ce revenu de base par des taxes. Ils ont compris que, enfin en tout cas ceux qui étaient là, il me semble qu'il y avait plus simple quoi.
Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Oui, voilà, y a pas, ça n'a pas été filmé, cette.
Alors on en avait parlé et puis nous il faut qu'on s'équipe, ça fait partie des choses, on n'a pas de caméra dans les collectifs. Donc faut absolument qu'on arrive à s'équiper de ça, quoi.
Ça peut se faire aussi tout simplement avec un screencast, hein, avec Open Broadcasting Software, qui est un logiciel libre. Eh bien, on peut enregistrer les visuels sur lesquels on parle avec un micro, et ça suffit. On peut même mettre la webcam du PC en route, et en fait, avec un simple PC, on peut faire l'enregistrement.
Oui, mais en fait les portables que j'ai, moi, ils ont des problèmes de micro, justement, j'arrive pas. Enfin, bon, bref. Donc
Ouais.
c'est pas en soi, on y arrivera hein, à les filmer.
Mais moi, je
Alors on a une
propose.
conférence dans nos activités, on a aussi quelqu'un qui se forme pour faire des conférences gesticulées avec
Ah.
l'équipe de Franck Lepage. Hein.
Ah oui, d'accord.
Donc l'idée, c'est ou conférence gestuée, c'est de faire des conférences un peu humoristiques, mais qui traitent vraiment du fond, mais dont les gens se souviennent en fait.
Ouais.
Donc voilà, donc ça des à la fin du mois, bah, celle qui se forme à ça nous fera une première version de sa conférence. Et puis au fur et à mesure de l'été, on va toujours monter, on a toujours des stands de notre association qui sont là dans les différents forums et on nous sollicite aussi pour des conférences, donc ce sera l'occasion de faire cette prestation-là de conférence gesticulée.
Et de
Voilà.
l'enregistrer alors.
Bah peut-être pas dès la première fois parce qu'on aura sans doute des remarques. Moi je l'ai pas vu par exemple.
Ouais.
Donc voilà.
D'accord. Alors sinon, un micro USB, ça marche bien. Hein. Un micro USB, c'est pratique. Alors donc,
Ah oui,
un micro
t'as
USB,
raison,
ouais,
tout à
pour
fait.
avoir du son, c'est nickel, ça se branche très vite ça marche en général, c'est de très bonne qualité. Alors, pour finir ça, on va dire un dernier mot ensuite sur les RML9. Quand tu parles de bon, quand même pas mal d'activités, hein, que tu nous as dit, une commission jauge économicus, des conférences dont tu viens d'en parler d'une, d'autres en préparation, conférences gesticulées. Tu parles de gens de l'Orne qui sont venus, il y a donc des gens à Angers qui sont intéressés. Il y a déjà votre installation locale, vous êtes au moins 70 apparemment de ce que tu me dis qui sont quand même très motivés parce que pour s'enregistrer sur une monnaie libre en cours, faut être très motivé.
On est à peu près une centaine, ouais, parce qu'il y
À
en
peu
a
près
qui
une
sont
centaine.
pas rentrés encore,
D'accord. Et alors,
70 qui sont rentrés.
et la question que je voulais te demander, c'était, mais est-ce que ces événements sont repris, l'information, est-ce qu'il y a un site qui recense toutes ces activités dans ta région?
Ah bah oui, nous c'est notre site, donc
Ouais.
le-sou.org/agenda, donc au fur et à mesure, c'est alimenté.
Mais il n'y a pas encore de publication, que ce soit texte, avec photo, que ce soit vidéo, il n'y a pas de publication de ces
Ah si si
dernières
si en fait
activités.
donc sur notre site alors c'est peut-être pas tellement mis en valeur mais on a une newsletter qui part tous les 2 mois et dans lequel on fait le compte rendu de tout ce qu'on fait donc c'est vraiment notre carnet
D'accord.
de voyage on va dire donc
Mais
ça
il faudrait
s'appelle le
peut-être
journal du
aussi.
sous voilà.
D'accord, mais il faudrait peut-être alors aussi publier sur les réseaux sociaux, Diaspora notamment, les réseaux sociaux libres c'est mieux, mais les autres aussi pourquoi pas, publier quand ces informations sont disponibles afin que les gens puissent avoir l'information, puis les plus motivés s'abonneront au flux RSS de votre site. Enfin voilà, enfin, travaille
Oui,
peut-être la
on
communication.
n'est pas sur Diaspora avec la page du sous, mais par contre on y est sur les autres,
Ouais.
les traditionnels, on va dire,
Ouais, puis
et
sur les.
privateurs.
Oui, bah sur les 100 motivés, peut-être qu'il suffirait qu'il n'y en ait qu'un seul qui soit sur Diaspora pour que s'il poste avec les bons hashtags, on soit au courant,
Ouais,
les
bah
gens
on a
puissent
des
être au courant.
libristes qui nous ont rejoints, donc faudrait que je les branche là-dessus, qui sont en train de nous monter
Ah,
notre
ouais.
serveur et correctement pour qu'on ait des envois de mails propres, etc. Donc
D'accord.
c'est des gens dont c'est le métier, la gestion réseau. Et donc oui, je pourrais les brancher pour qu'ils relaient l'information là-dessus, comme ça, que ça revienne pas toujours au même.
Voilà, que ce soit pas toujours les mêmes, et puis surtout qu'après qu'on soit informé, puisque bon, de ce que tu me dis, moi j'ai eu l'information, disons, parce que je suis vraiment attentif, mais sinon, c'était pas forcément très bien rendu. Bon, faut peut-être améliorer ce côté-là. Alors, bon, pour terminer, peut-être, Benoît, cette émission qui est assez riche, hein, puisqu'on n'est pas loin de 1h30, hein, donc c'est quand même pas mal. Je crois que je vais être obligé de mettre une deuxième pause musicale, là, qui a eu lieu tout à l'heure, là, du coup, qui a déjà eu lieu. J'ai pas eu le temps de l'annoncer. Pour terminer tranquillement, c'est une émission vraiment très riche, très intéressante. Donc, allez-y d'abord sur Césium. Hein, vous avez vu, Benoît vous a mis l'eau à la bouche un petit peu pour aller découvrir ça. Vous n'êtes pas obligé d'être membre en plus pour découvrir, comme on l'a dit. Après, pour aller gérer votre compte, faire des transactions, rejoindre la toile, effectivement, etc., il faut être membre, ça c'est sûr. Quoique non, pour faire des transactions, même pas, puisque une clé quelconque suffit. Donc alors, mais alors, il faut en recevoir par contre, il faut que quelqu'un vous en envoie. Comment dirais-je le. Oui, l'RML9, du coup. Alors, en juin, prévu, donc organisé par Pierre-Jean Chancelier avec son collectif du Havre, qui donc est en train d'organiser ça. Il y a déjà un site officiel, alors j'ai pas l'adresse en tête, mais vous trouvez le site officiel des RML9 annoncé sur le forum d'Unitaire, forum.d'unitaire.org. Vous cherchez RML9, vous allez trouver le poste où c'est cité. Et vous pouvez contacter directement Pierre-Jean Chancelier, puisque c'est au Havre. Si vous êtes au Havre ou dans la région, ben, faut pas rater ça, sachant que de toute façon, sans doute, il y a des gens de Paris, il y a des gens de Toulouse, il y a des gens de Montpellier, de Lyon et de partout en France, hein, qui vont venir au Havre pour cet événement. Toi, qu'est-ce que tu attends de ces RML9? Qu'est-ce que tu prévois? Comment tu vois la chose? Le Havre, déjà, c'est moins loin pour toi que Toulouse, hein.
Oui, on sera sans doute quelques-uns de notre association à venir. Alors, qu'est-ce que j'attends pour l'instant? Le programme de ce que moi je proposerais n'est pas encore défini. Peut-être aller un peu plus loin sur la. Enfin, là, c'est plus dans mes attentes. Moi, en tant que participant, ce serait peut-être de travailler sur justement Neo4j, l'outil d'analyse par les graphes. Je pense que ce serait intéressant que des gens comme Grizzly ou Inso peut-être puissent nous présenter, nous permettre d'accéder aux données, requêter, etc. Avec cette approche graphe qui me paraît très prometteuse, quoi.
Ouais, d'accord, c'est ça qui
Voilà, et puis
t'intéresse,
après
ouais.
au niveau du module, je pense que je continuerai le module, la suite du module Galilée, là, c'est le module Copernic, c'est ça?
Non, 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 c'est pas Copernic. S'il y avait eu Copernic, il aurait été avant, puisque
Ah bah
Copernic,
oui.
c'est avant Galilée. Non, et après Galilée, c'est le module Yolande-Bresson.
Ah oui, Yolande
Voilà,
Bresson,
en
voilà,
hommage
c'est
à
ça.
Yolande Bresson, qui est un économiste, qui avait développé, donc, je le rappelle, qui avait développé la valeur temps, qui est un concept extrêmement proche de la théorie relative à la monnaie, à tel point que. Quand on s'est rencontrés, on s'est compris tout de suite et il a tenu, enfin il a accepté, c'est moi, je lui ai proposé d'accepter de préfacer la théorie relative à la monnaie, voilà, donc j'en suis très très fier, très content, et d'autant que j'ai apprécié ses travaux, même si ça diffère de la théorème, c'est pas la théorème, mais c'est quand même, on sent que ben, la valeur temps, voilà, on voit bien, rien que le concept, déjà, le concept est très proche du résultat de la théorème, même si le raisonnement et la forme obtenue à la fin sont très différents. Voilà, donc Yolande Bresson, et après Yolande Bresson et le module Leibniz, il n'y a que deux joueurs, hein, enfin deux,
Participant.
il n'y a que deux participants pour l'instant qui sont arrivés jusque-là. Je pense pas qu'il l'ait fini, mais j'ai pas eu le temps de trop de m'occuper d'eux de toute façon, parce que j'étais trop pris par l'encadrement du module Galilée déjà. Alors je pense que ce qu'il faut faire aussi, c'est freiner ce développement-là, même si les autres modules sont faisables, sont réalisables, je pense que ça sert à rien d'aller trop loin, trop vite. Je pense que ça serait bien maintenant que ceux qui ont sont allés déjà un peu au-delà aussi, il faut qu'on encadre ceux qui font le module Galilée. Parce que je pense que tant qu'il n'y aura pas au moins 10 personnes qui ont réalisé entièrement le module Galilée, c'est pas la peine de forcer le trait. Alors le module Yolande-Bresson, il existe, donc à la limite, les informaticiens, disons, peuvent le passer. Comme il n'y a que Tatou qui a fait le module Galilée, il faudrait qu'il le fasse aussi maintenant. D'ailleurs, il m'a dit qu'il voulait le faire. Bon, je sais pas s'il va y arriver d'un coup, mais en tout cas, il veut maintenant passer à ça. C'est-à-dire le faire, c'est-à-dire à la fin publier. Parce que si on ne publie pas, c'est important de publier parce qu'à la fois, ça démontre qu'on a bien compris le sujet. Donc c'est très important pour le finir complètement. Si on n'est pas capable d'expliquer ce qu'on a obtenu, c'est qu'on n'a pas vraiment compris. C'est-à-dire qu'on a fait quelque chose, mais. On ne le maîtrise pas vraiment, il faut le refaire plusieurs fois. Quand on arrive à l'expliquer à peu près correctement, ça veut dire que voilà, on a une bonne connaissance du sujet. Et puis aussi, surtout, ça aide les suivants à pouvoir faire ce module plus vite. Parce que s'ils ont déjà quelqu'un qui leur explique un peu ce qui se passe, ben, ils sont un peu déjà guidés par cette explication. Et donc, quand ils vont venir au module, ben, ils vont peut-être y arriver au lieu de le faire en 6 heures, comme Tatou l'a fait en 6 heures. Hein, il l'a fait en 2 fois 3 heures, ce qui est le temps proposé au RML. Mais il l'a fait du premier coup, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas fait en deux fois, en trois fois, hein. Il l'a fait du premier coup, il est arrivé, pouf, il s'est posé, le lendemain, il est fini. Donc voilà, et il a juste pris, il a publié le lendemain, quoi. Et le temps de faire la vidéo, voilà, il l'a mis sur YouTube le lendemain. Mais c'est réalisable, peut-être une fois qu'on a vu les comptes rendus tatou, on peut le réaliser peut-être en moins de temps, parce qu'on peut préparer ça, on peut le faire chez soi en plus, hein, on n'est pas obligé de venir au RML pour le faire. On peut très bien le faire chez soi. Si vous écoutez, vous êtes en train de faire le module Galilée, vous avez fait, vous pensez avoir terminé, si vous voulez publier le résultat pour le finir, si vous voulez avant de le publier, que quelqu'un qui l'a déjà fait le regarde, vous pouvez demander à Tatou d'y jeter un œil. Vous pouvez demander à Cegic ou à Cuculand de jeter un œil dessus, ben, vu qu'ils ont passé le module Leibniz, ils sont très au-dessus de pouvoir vérifier que tout est OK. Et éventuellement, moi, j'y jetterai un œil, mais enfin, bon, ce serait bien que ça soit pas moi tout le temps, parce que pas que ça va faire non plus. Hein. Mais voilà,
Mais je
donc.
pense que ce serait une bonne idée, ouais, que ceux qui ont fait le module les fois d'avant commencent à gérer le
Oui, il faut, parce
à
que.
gérer complètement le.
Ben oui, parce que il faut. Si les modules précédents sont encadrés, après moi je peux m'occuper d'encadrer les modules supérieurs, mais je
Bah
peux
oui.
pas. Je peux difficilement faire tout en même temps. C'est ça qui m'a. Je me suis rendu compte à Toulouse là, c'est que ça allait pas. Parce que modules Galilée, ils ont quand même encore besoin d'être un peu aidés pour certains points, pas tous, mais des points qui. Il y en a d'autres qui l'ont fini d'ailleurs, mais ils l'ont pas publié. C'est-à-dire sur place, on voit bien qu'ils ont quasiment tout fait. Donc, il leur manquait peut-être trois bricoles à finir, mais voilà, donc ils n'ont pas publié, donc on ne peut pas savoir si vraiment. Voilà, c'est fini. Bon, bref, je sais plus pourquoi je m'étais parti là-dessus. Ah oui, parce que tu voulais finir le module Galilée, c'est ça? Ah non, tu voulais
Non,
passer
non,
au module
passer au module
suivant, au
d'après,
module
ouais.
Violent-Bresson. Voilà, d'accord. Voilà, et puis donc tu parlais des graphes, tu parlais de ça, et puis.
Oui, bah voilà, après déjà je pense que c'est pas mal si on si je peux avancer sur cette compréhension des graphes. Voilà, et puis ça, après c'est ça passe vite, hein, donc nous si on a des préparations à faire,
Ouais.
voilà, c'est dense, donc faut pas prévoir non plus trop de choses pour nous.
Oui, il faut que chacun prépare sa chose à lui, puis si chacun fait sa part, ça fait des RML très 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 touffus. Hein. C'est assez, c'est très condensé ces 4 jours, hein, parce que c'est très profond. Il vaut mieux pas y arriver les mains dans les poches, hein. Si on veut profiter. Mais
Ok.
voilà, je crois qu'on arrive au bout de cette émission. Hein, riche, hein, on est bien sur 1h30, deux pauses musicales. Il y en a pas beaucoup des comme ça, mais. Il fallait, parce que voilà, en Mayenne, il y a du monde qui est branché. Mais c'est le fait d'avoir organisé des RML, forcément, ça booste aussi, hein.
Sûrement, oui, c'est une bonne expérience, ouais. Bon, après, moi, là, je suis à plein temps depuis l'été dernier sur les monnaies libres, donc. Bon, forcément, on produit quoi. J'invite vraiment les gens à se lâcher quoi. Si vous sentez que la monnaie libre c'est le bon truc, bon, il faut prendre le temps d'y réfléchir, d'être certain que ce soit ça. Mais quand on est certain, c'est bon. Allons-y. Qu'est-ce qu'on attend? Comment ça se fait qu'on n'ait pas plus de contributeurs à temps plein finalement?
Ah ouais, mais après, évidemment, il y a des contraintes, notamment il faut rembourser la dette. Hein.
Oui, mais ça aussi, c'est une partie, en partie des peurs qu'on peut avoir. On a peur de pas survivre si on fait pas comme les autres. Enfin, moi, je m'en aperçois parce que je suis concrètement, confronté à ça, sans arrêt dans le dilemme. Est-ce que je travaille pour, ce qui me permet de gagner de l'argent dans mon entreprise, ou est-ce que j'investis dans les monnaies libres? Et finalement, bon an mal an, j'arrive à vivre, et ça avance quoi. Au moins, voilà, au moins ça avance quoi.
Eh bien super, ça avance. Voilà, c'est une bonne conclusion pour cette émission. Merci Kim Amila de
Merci à
nous
toi.
avoir accompagnés dans ce nouvel épisode Monnaie Libre, donc spécial Césium, spécial Mayenne aussi, spécial Kim Amila. Et puis donc on te donne rendez-vous pour une prochaine fois, rendez-vous RML 9. Merci de nous avoir écoutés. Je vous laisse donc avec notre générique fétiche, No More Dreams. Au revoir.